est presque 17h sur Radio Bartas, c'est l'heure de la rediffusion de la matinale de lundi.
Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 8 mars, il est 8h30, et avec moi Corto, salut Corto.
Salut mon Ben et bonjour à tous.
Le 8 mars, c'est la journée internationale pour le droit des femmes, on vous en parle dans un instant. Au programme de cette matinale, ton reportage Corto, que tu as réalisé il y a une dizaine de jours à la Jeunette Verte avec la team de Frédéric Bousquet sur leur spectacle Inventor, tu nous en dis plus tout à l'heure. Et en deuxième partie d'émission, nous retrouverons Marc qui est torréfacteur, on l'avait eu au téléphone il y a quelques semaines. Il y aura de la musique comme d'hab, mais on commence, si tu veux bien, Corto, par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Officiellement consacrée à la lutte pour le droit des femmes, la journée du 8 mars est parfois mal comprise, notamment par ceux qui souhaitent une joyeuse fête de la femme, une rose rouge à la main ou une boîte de chocolat. Il arrive aussi que certaines personnes remettent en cause la pertinence et le bien fondé de cette journée, en affirmant par exemple qu'en France, l'égalité professionnelle est acquise, ou en réclamant une journée internationale du droit des hommes. Et ouais, pourquoi pas, hein, enfin bon. À travail de valeur égale, salaire égal. Ce principe est inscrit dans le Code du travail français depuis 1972. Pourtant, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, dont les chiffres les plus récents ne prennent en compte que le secteur privé, les femmes gagnent en moyenne 16,8% de moins que les hommes en équivalent temps plein, c'est-à-dire pour le même volume de travail. À cela s'ajoutent les inégalités de volume de travail, les femmes étant bien plus souvent à temps partiel et moins souvent actives professionnellement dans l'année que les hommes. Lorsque l'on tient compte de l'ensemble de ces facteurs, elles perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 28,5% à celle des hommes, c'est énorme. En outre, si elles sont désormais plus diplômées que les hommes, les femmes restent moins nombreuses aux postes de direction. Le plafond de verre est toujours une réalité très forte en entreprise. Certes, il y a du mieux du côté des conseils d'administration, depuis que la loi Copé-Zimmermann, qui a été votée en 2011, y impose un quota de 40% de femmes. Mais elles ne sont guère plus de 20% au sein des comités exécutifs, tandis que 37% des entreprises comptent toujours moins de 2 femmes au rang des 10 plus hautes rémunérations, et qu'un seul groupe du CAC 40, Engie, et dirigée par une femme, Catherine McGregor. Bref, on est encore loin de l'égalité. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, évitez de dire bonne fête aux femmes. Ceci n'est ni une Saint-Valentin, ni une fête de quoi que ce soit d'ailleurs. Allez, on se retrouve dans un instant pour le reportage de Corto. On écoute d'abord Cat Clyde, je vais y arriver. Le morceau s'appelle Mama Says.
Oh,
Cat Clyde, Mama Said, Corto, au privilège, tu es rentré dans une salle de spectacle à la Genette Verte il y a une dizaine de jours. Raconte-nous tout.
Eh ben oui, alors je suis allé rencontrer l'ensemble Inventor qui est donc en résidence actuellement à la Genette Verte pour préparer le troisième acte de leur pièce. Alors l'ensemble Inventor, brièvement, c'est un ensemble d'artistes qui font des spectacles hyper immersifs quoi, et assez fascinants même. Sur le thème de l'espace et de sa conquête via un environnement sonore et visuel hyper immersif quoi, avec, en utilisant des technologies de pointe, des espèces d'algorithmes pour que l'image influence le son et que le son influence l'image. Et ils sont aussi connus pour avoir inventé des instruments, ils sont plusieurs à avoir inventé des instruments dont Frédéric Bousquet qui est le fondateur du groupe et qui a inventé le Titanium Euphone, qui est le premier instrument monde en titane, apparemment. Titane est très lié à l'espace, d'ailleurs, de par son isolation qui servait à isoler les fusées, je crois, à l'époque.
Quand même.
Voilà, du coup, ils sont en train de préparer leur troisième acte qui s'appelle Lux Aeterna, qu'on pourra peut-être aller voir le 27 mars.
Croisons les doigts.
On y croit, voilà. Donc je suis allé interroger Philippe Corbier, qui est le metteur en scène, et Frédéric Bousquet, le fondateur d'Inventor, donc on les écoute.
On se retrouve tout à l'heure.
Alors, nous sommes avec Philippe, le metteur en scène de Inventor. Bonjour Philippe.
Salut, bonjour.
Est-ce que tu peux nous présenter un peu Inventor, comment vous êtes rassemblés, quel est votre projet, tout ça?
Alors, Inventor, c'est la clé de voûte d'Inventor, c'est Frédéric Bousquet. Frédéric Bousquet, qui vit pas très loin de Florac, lui, il vit sur le Cos, il est au Temple. Et c'est lui qui a eu l'idée d'écrire autour de la prospective spatiale. Et pour ce faire, il s'est entouré d'une équipe. D'abord, il s'est entouré d'un garçon formidable qui s'appelle Olivier Boisard, qui est quelqu'un qui est designer, entre autres, de vaisseaux spatiaux. C'est pas des blagues, hein, c'est vrai, il est vraiment designer de vaisseaux spatiaux. Et Fred Bousquet a eu envie de créer un opéra cosmique. Et pour ce faire, du coup, il a été chercher dans la facture instrumentale des personnes qui ont innové, qui ont inventé de nouveaux instruments à son image, parce que Fred a créé le phone en titanium, le titanium phone, donc un euphone en titane, qui est pas un instrument qui date d'hier, hein, parce que déjà dans le XVIIe siècle, Ludovic Clavny, l'Allemand, avait créé ce genre d'instrument. Mais Fred l'a remis au goût du jour en en fabriquant un en titane. Titane qui est la matière de prédilection de la conquête spatiale, parce que c'est un métal qui est très lourd, qui est très léger justement, pardon, très dense, et qui est un alliage qui permet aux fusées d'utiliser moins d'énergie pour décoller. Après, autour de ça, il a réuni toute une ribambelle d'inventeurs, de créateurs d'instruments de musique, où on se retrouve donc avec Sergueï Bekoulé, qui lui a créé un dualo, ça s'appelle. Ça ressemblerait à un accordéon, mais ça n'en est pas un. C'est des petites touches numériques et qui sortent des sons très surprenants. On a un autre qui est Florian Becchini, qui est à la base saxophoniste, un grand saxophoniste d'ailleurs, et qui lui joue du silfio. Et alors le silfio, c'est, on va dire, une sorte de clarinette électronique aussi, qui est bourrée de technologie et qui est très sensible et qui, pareil, marche en tant que contrôleur et peut sortir des sons formidables. Et raconter l'histoire de la conquête spatiale, ça n'aurait pas été possible sans avoir un conteur, donc sans avoir une voix. Et là, c'est Clémence de la Taille qui est la chanteuse de cet opéra cosmique, et c'est elle qui va nous raconter. C'est grâce à sa voix qu'on va pouvoir suivre cette histoire de conquête et de prospective spatiale. Et raconter tout ça en son, en voix, c'était chouette, mais on a vraiment eu envie aussi de rajouter de l'image. C'était important pour nous parce que c'est difficile d'expliquer des choses qui n'existent pas encore, alors que on a les moyens aujourd'hui de pouvoir les concrétiser, de les montrer à tout le monde. Et du coup, avec Nassimo Bertone, qui est un artiste plasticien marseillais, et la complicité d'Olivier Boisard, qui est ce designer de vaisseaux spatiaux, ils nous ont pondu des images formidables qui accompagnent le spectateur tout le long du spectacle.
Là, j'ai vu que vous travailliez donc sur l'acte 3. Il y a donc deux que vous avez fait avant. Et est-ce que vous voyez ça comme une continuité? Est-ce que les trois, ils forment un ensemble ou que ça se suit vraiment pas?
Si, si, ça suit. On raconte une histoire. On était en partenariat 3 ans avec la Jeunette et à chaque année, on a donc créé un acte. Le premier acte s'appelle Terramorphosis. Terramorphosis va raconter l'histoire de comment on va reconquérir la Lune. Voilà, on y a déjà été avec Apollo, hein, mais on a juste fait des puces, on s'est posé, on a ramené 2-3 poussières. La reconquête de la Lune, hein, qui est très actuelle, hein, je parle pas de science-fiction, ça, c'est en train de se passer. L'homme va retourner sur la Lune pour y poser une base avancée, dans le but de créer un habitat lunaire, ce qui nous amène au deuxième acte, qui s'appelle Moon Village, qui veut dire le village lunaire. Et donc là, l'habitat lunaire sera posé. On aura des habitants sur la Lune dans quelques années. Tout ça pour nous amener au troisième acte qui s'appelle Lux Aeternam, la lumière éternelle, qui va nous amener donc à partir de la Lune, à partir sur d'autres planètes. D'autres planètes, on pense à Mars, évidemment. On a déjà envoyé des sondes là-bas, mais on pense à une autre planète, une lune aussi, elle, qui est une lune de Saturne, qui s'appelle Encelade. Encelade, c'est une planète un peu particulière parce que c'est une grosse boule de neige, on va dire, c'est une boule de glace. Sauf que sous cette glace, sous cette banquise qui fait à peu près 100 km d'épaisseur, il y a de l'eau. Les chercheurs se disent que sous cette grande banquise, il est peut-être possible de poser des bases et de pouvoir construire un autre habitat plus loin, très loin. 100 millions de kilomètres, pardon, à peu près. Plusieurs années de voyage pour pouvoir y accéder. Ça fait rêver.
Ensuite, au-delà de l'aspect musical de vos représentations, il y a vraiment un visuel qui est assez extraordinaire, hein, ça donne quelque chose de plutôt immersif. Alors, pouvez-vous demander quel est l'effet que vous essayez de donner? Comment est-ce que vous définiriez votre style?
Ce qu'on aimerait faire vivre aux spectateurs, vraiment, c'est d'appréhender à la perte de sens qu'on pourrait avoir. Parce que moi, j'ai pas connu ça, vous non plus, j'imagine. La perte de sens qu'on peut avoir quand on ne sait plus où est le haut du bas, quand on est cosmonaute, quand on est dans une station, quand on est perdu dans le grand rien, quand on n'a plus de terre sur laquelle s'appuyer, quand on n'a plus de pesanteur. Et si on arrive à reproduire ce grand vertige, ça nous, pour nous, le pari serait gagné. Et pour ça, déjà dans la prospective sonore qu'on a engagée, on a essayé de trouver des sons dits inouïs, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore écouté. On a été cueillir des sons sur le COS, par exemple, qu'on a remodelés, qui sont plus reconnaissables aujourd'hui comme des sons naturels. Hein. On les a vraiment bougés. Le phone de Frédéric Bousquet, un son pour ceux qui le connaissent, qui est cristallin, qui nous amène vraiment dans un ailleurs. Les vidéos qui sont faites par Olivier Boisard et par Nassimo Bertone, c'est pareil. On a essayé de rentrer dans une esthétique complètement différente. Pour le style, alors justement, voilà, on a essayé de trouver un style qui soit inouï et inédit. On n'a pas encore de nom. On peut en donner un, tiens, si ça va être un style solarien. Parce que finalement, c'est ce qu'on est tous. Nous sommes tous solariens, c'est-à-dire nous sommes tous des habitants du système solaire.
C'est beau. Prochaine question, je me demandais, par rapport au Covid, où est-ce que vous en êtes maintenant, en quoi ça a pu chambouler votre travail?
Ah bah, ça a chamboulé notre travail parce qu'on devait déjà faire 2 autres résidences auparavant et la première résidence correspondait exactement au premier confinement, en fait. Voilà, genre quelques jours après le premier confinement, c'est là où on devait tous se réunir ici pour pouvoir travailler ensemble. Ça n'a pas été possible. Et ça a été repoussé. La deuxième fois, on devait le faire. C'était au moment où intervenait le second confinement. Donc finalement, on était super synchro avec ça. Mais ça nous a manqué énormément. Évidemment, je pense que ça manque à tout le monde. Ouais, c'est proportionnel à la joie qu'on a eu de se retrouver là tous ensemble et de pouvoir enfin retrouver le plateau, enfin retrouver notre outil de travail, enfin retrouver un théâtre, quoi, en ordre de marche, des lumières qui s'allument, des gens qui nous accueillent, des gradins qui craquent. Toutes ces sensations-là nous manquaient énormément, nous, en tant qu'artistes. Et il reste un élément essentiel qui nous manque encore aujourd'hui, c'est le public, parce que c'est pour le public qu'on fait tout ça. Là, pour l'instant, c'est pas encore possible. On est censé jouer le 27 mars prochain, à la Jeunette, justement, la restitution de ces 3 actes, et on sait pas encore si ça va être possible de le faire. Par contre, ce qui va être possible de faire, C'est une captation qui permettra d'être diffusée peut-être un peu plus tard, pas. Mais moi, je préférais vraiment, vraiment, vraiment re-rencontrer le public et que les gens soient là. Et je pense que ça manque à tout le monde aussi de s'asseoir dans une salle, de se taire, de rêver un peu tous ensemble, d'en discuter après, aller boire un petit verre après le spectacle, ce genre de truc-là. Il y a un an, on nous aurait dit que c'était pas possible, on aurait ri au nez de tout le monde, et voilà, en à peine une année, comment on en est arrivé là, c'est fou. Mais en même temps, c'est un effort collectif que je salue, parce que on a envie d'être le plus sage possible pour que tout reprenne comme avant le plus vite possible.
Eh ben, ça donne envie, en tout cas. J'ai bien envie de voir votre petit spectacle, si l'occasion s'y prête.
Tu seras le bienvenu.
Eh ben, en tout cas, merci Philippe pour cette petite interview. Ce fut un vrai plaisir.
Bah, c'était super sympa. Merci. Bonne fin de journée.
Nous voici en compagnie de Frédéric Bousquet, éminent musicien de l'ensemble Inventor. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous.
Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu déjà?
Oui, mais moi je suis facteur d'instruments, musicien. Globalement, j'ai une formation de conception mécanique, aéronautique. Et donc mon travail consiste à explorer le monde sonore en important les technologies de l'industrie aéronautique dans la facture instrumentale, c'est-à-dire dans la fabrication des instruments de musique.
Donc effectivement, ouais, vous êtes connu pour avoir créé des instruments au sein de votre ensemble. Est-ce que tu peux présenter un peu le tien? Parce que j'ai vu que tu avais créé le Titanium Euphone, qui est a priori le premier instrument en titane qui a jamais été inventé, qui a été très bien reçu par la critique d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Disons que l'ensemble Inventor, c'est l'ensemble des inventeurs d'instruments de musique. Quand on entend instruments de musique, on pense aux familles classiques. Alors il y a certes des évolutions, des régénérations, des évolutions qui font que des instruments anciens, les flûtes par exemple, vont aujourd'hui disposer de clétages, de matériaux différents, etc. C'est le cas de mon instrument qui s'appelle l'euphone, qui est une évolution du glass harmonica inventé par Benjamin Franklin. Donc là on est au XVIIIe siècle, on travaille sur un matériau qui est le cristal. Et finalement cet instrument-là, il a ses faiblesses, notamment en intensité, et un homme décide de créer un instrument plus puissant qui va appeler euphone, ce qui signifie en allemand qui sonne bien, qui va donner naissance à un mot qui s'appelle euphonia, qui est l'inverse de la cacophonie. Donc aujourd'hui, l'euphone, c'était un instrument qui avait été régénéré sous forme de sculpture sonore, mais dont finalement on s'est rendu compte qu'il existait toute une trace et tout un patrimoine en matière de littérature scientifique et particulièrement acoustique, c'est-à-dire la science des sons. Et à partir de ce travail-là, à l'aide d'universités et d'un entourage, nous avons pu fabriquer le premier euphone en titane aéronautique. Donc le titane aéronautique, c'est un matériau très léger, mais qui a surtout des caractéristiques mécaniques très particulières qui vont donner naissance donc à des nouveaux sons. Et c'est un peu, je crois, le sens de cet ensemble Inventor. C'est que nous ne parlons pas tellement d'instruments de musique. Nous parlons, en tant qu'explorateurs du monde sonore, de générateurs de sons. Et autour de l'euphone, sur cette scène, il y a essentiellement des générateurs de sons. C'est-à-dire finalement des objets qui sont des instruments certes de musique, mais qui sont là pour créer de la matière sonore. Ces inventeurs, ils vont d'abord inventer des textures sonores. Ils vont travailler sur la matière même. Ensuite, ils vont créer des objets pour contrôler cette matière. Alors ces objets, ils peuvent prendre la forme éventuellement d'une sorte de tube avec des touches, parce que ça va permettre à des gens qui jouent d'instruments comme le saxophone de retrouver des repères. Mais ça peut être aussi un tube qui, lorsqu'il va être tordu, secoué, plié, va générer des sons. Ça peut être aussi un clavier symétrique, un peu comme ceux sur un accordéon, mais dont les touches clignotent et qui va induire des modes de jeu spécifiques. C'est-à-dire qu'au fond, pour être assez clair, les explorateurs du monde sonore, ils explorent la matière à l'aide d'outils, et ces outils vont induire des gestes sonores. Et ces gestes sonores vont être le garant de l'articulation, de l'expression. Et à partir de là, on va avoir donc de nouveaux paysages sonores. Et le travail de mise en commun pour cet opéra, c'est d'alterner des paysages sonores inouïs avec des chants qui vont constituer un fil narratif pour le spectateur qui va vivre une aventure, un voyage. Et que cela soit suffisamment explicite pour qu'il ait à la fois une histoire qui lui soit racontée, et en même temps qu'il puisse lui-même se raconter une histoire.
Et du coup, est-ce que vous calquez votre musique sur votre image? Est-ce que l'image est calquée sur la musique, ou est-ce que les deux sont vraiment en même temps en symbiose?
Donc les musiques sont calées sur des propos, donc ces propos ils sont tirés d'un livret, et ce livret il a été coécrit dans un ouvrage dont j'ai assuré la direction par différents poètes. Mais il utilise aussi des carnets de voyage, par exemple des spationautes, il utilise aussi des tas de références. Donc ça, ça va former la source qui va nous permettre d'avoir un certain nombre de chants. Ensuite, pour ce qui est des paysages sonores, Là, nous avons fait appel à un réalisateur. Ce réalisateur, il s'est emparé, un peu comme nous l'avons fait avec les sons, qui sont les sons patrimoniaux ici, que nous avons justement intégrés dans nos machines pour les manipuler. Ce réalisateur vidéo, il est allé chercher des paysages dans nos paysages lozériens. Par exemple, des survols du COS avec des drones, etc. Et il s'en est servi pour créer des planètes futuristes, des choses comme ça. Mais on a aussi plusieurs sources vidéo. Il y a une grande part des sources vidéo qui proviennent aussi des instruments, des textures, des matériaux qui sont dans les ateliers, puisque nous sommes tous des inventeurs, des électroniciens, des chefs d'entreprise, et nous avons donc dans tout ce matériau de base qui vont aussi donner naissance à nos instruments. Et enfin, il y a une chose très importante, c'est que le récit parle de régénérer un peu nos humanités. Mais au fond, pour cela, il prend, comme souvent c'est le cas, le principe d'aller sur une planète lointaine, comme l'avait fait Voltaire, par exemple, pour parler de la Terre, avec du recul. Et donc, on a fait appel à un réalisateur spécialisé dans le space design, c'est-à-dire la conception spatiale, et qui est un urbaniste, architecte, qui va développer tout un savoir autour de l'architecture spatiale. Donc, par exemple, créer des cités orbitales, des planètes artificielles, des satellites, des fusées, des voiliers solaires, des centrales solaires, orbitales, voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que avec ce panachage de vidéos qui est proposé, de sources vidéo, on arrive à obtenir une forme assez continue, fluide, qui va nous permettre d'alterner des séquences totalement figuratives avec un voilier qui s'envole, des personnages qui montent dans des ascenseurs, des choses comme ça, des capsules de vaisseaux, mais aussi des choses totalement abstraites qui vont être synchronisées avec la musique, par exemple, et représenter, plus que l'extérieur, notre perception intérieure du propos, ou simplement viscéralement, on va travailler sur l'aube matinale, ou sur la chaleur du soleil, ou sur l'alliance, sur le rituel, sur la fabrication des totems, sur un certain nombre de thèmes qui sont sous-jacents dans l'écriture du livret.
Et oui, effectivement, vous avez un rapport étroit avec l'espace dans vos pièces. Et du coup, est-ce que vous avez un contact avec des grosses pointures de cet univers-là?
C'est-à-dire que Inventor, il est en incubation dans une association qui incube des ensembles musicaux qui s'appelle Stolon Art et Sciences et qui a été fondée en 2004 lors des passages de Vénus entre la Terre et le Soleil. Et à l'époque, l'idée qui nous était venue avec, en effet, des sommités du monde de l'espace, donc on pense à Jean-Pierre Luminet, on pense à André Braik, on pense à Hubert Reeves, on pense à l'IMCCE, par exemple, l'Institut de mécanique céleste, l'Observatoire de Paris, c'était de créer un collège scientifique qui puisse nous permettre, à nous les artistes, de transcender ce thème de Vénus passant entre la Terre et le Soleil. Et l'équipe d'artistes s'était retrouvée autour d'Olivier Galinou, autour d'Olivier Samoyant, de Jacques Higelin, etc. Et donc il y avait eu un dialogue incessant. Et ça, c'est un principe que Stolon, dans les programmes qu'elle porte, que ce soit le Festival de l'Inouï, le Concert sous les étoiles, a toujours en mémoire. C'est-à-dire ce lien indéfectible entre les arts et sciences comme quelque chose qui forme une véritable ossature, comme ça a été toujours le cas dans l'apprentissage que on pouvait avoir dans des civilisations anciennes. C'est-à-dire que, en mélangeant les arts et les sciences, une certaine forme de vérité temporelle et une vision créative aussi, intuitive, sensible, on arrive à obtenir une forme de poésie et qui, pour moi, est le ferment de l'humanité. C'est, je pense, dans le développement des sciences et techniques, c'est d'abord la curiosité, le goût pour les apprentissages, mais c'est quand même la beauté des choses, l'émerveillement que l'on a, et surtout la créativité que cela génère. Créativité individuelle, mais on le voit dans un spectacle comme un opéra, c'est avant tout une créativité collective.
L'ensemble Inventor avec le reportage de Corto, la date ce serait quand Corto?
C'est le 27 mars. Non.
27 mars, croisons les doigts.
Inch'Allah.
C'est jamais, tu m'étonnes. On se retrouve dans un instant avec Marc qui est torréfacteur et comme on parle de café, on écoute Hold Laff et Monsieur D, le café c'est quand même bien fait hein.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawam, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter, le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre,
fort comme vous l'aimez.
Ah mince, je viens d'en prendre, mais maintenant qu'il est fait,
un repas d'affaires tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent.
Détends-toi, René, prends mon cigare et un petit café.
Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi, mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris, puis je vois un troquet. Je commande un déca, mais en caféiné. Me fait.
Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété.
Je les jette par la fenêtre, elle avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre, et avant un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit:
vous avez l'heure s'il vous plaît?
Je casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison et je me sers, hein, devinez.
Papa, mon papa, en classe je suis premier.
Putain, mais quoi? Toi, t'es de faire chier. Mais qu'il est con ce gosse, en plus il va chialer. Je vais faire ma cuisine.
Nous sommes ce matin avec Marc, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Marc, Marc, tu es torréfacteur, alors quoi de mieux que de parler de café le matin? T'as investi les locaux de la pompe. Alors, la torréfaction, bon, quel mot. Déjà, quel a été ton parcours pour finalement en arriver justement à la torréfaction?
Eh bien, alors moi en 2010, il y a déjà 10 ans, purée. Je suis parti en Allemagne parce que j'étais un petit peu coincé ici, je savais pas trop quoi faire, donc je suis parti en Allemagne et j'ai découvert le café, donc j'ai commencé à travailler à Berlin en tant que barista, c'est-à-dire donc le barista c'est la personne qui prépare le café, donc spécialiste du café, et c'était dans une petite brûlerie, donc une micro-brûlerie, et là donc j'ai découvert tout le processus de torréfaction et je tombe complètement amoureux du café et de toute la complexité que ça pouvait avoir. Et pour moi, le café, c'est juste, je bois un café pour me réveiller, quoi. Et voilà, ça a changé ma vision du café. Donc après, j'ai continué à travailler dans cette brûlerie. Puis après, je suis parti à Hambourg travailler, monter une autre brûlerie avec des copains. Et là, par contre, j'étais beaucoup plus en charge de la torréfaction en soi, et j'ai appris sur le tas.
Et justement, donc tu as appris ouais, sur le tas, il n'y a pas de formation de torréfacteur?
Y a de plus en plus de formations, de workshops, de stages, des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment de formation, tu ne vas pas à l'école pour apprendre à être torréfacteur.
Qu'on comprenne bien, vas-y.
C'est entre autres parce que il n'y a pas vraiment. Enfin, c'est très dur de savoir ce qui se passe pendant le processus de torréfaction. Puisque en fait à chaque fois qu'on sort des grains du torréfacteur pour les analyser, pour comprendre ce qui se passe, on les sort de leur environnement, donc du coup c'est tout à fait pertinent. Donc c'est un peu beaucoup de pratique et toujours goûter, essayer, goûter, voilà, c'est surtout ça, donc il faut beaucoup de pratique. Donc on peut apprendre quelques principes dans des stages, mais il n'y a pas vraiment de formation pour être torréfacteur.
Qu'on comprenne bien, c'est quoi le principe de la torréfaction?
Alors le torréfacteur va acheter des grains verts, donc qui ont poussé entre les tropiques en général, qui ont été préparés aussi sur place, donc là il y a plusieurs méthodes de préparation, qui sont décortiqués, polis avant d'être mis en sac, puis expédiés en général en Amérique ou en Europe. Et donc le torréfacteur reçoit des grains verts qu'il met dans une machine, donc dans le torréfacteur. Donc c'est une machine, en gros, c'est un tambour qui est chauffé par, enfin, en général, qui est chauffé par-dessous avec du gaz. Et voilà, il fait chauffer sa machine, il met les grains dans la machine, et après, il y a plusieurs réactions chimiques qui font que le grain va brunir, et si on le laisse trop longtemps, brûler.
C'est ça. Et j'ai lu aussi en préparant cette interview que le torréfacteur, en fait, il a besoin de son nez, de son oreille et de son goût pour vérifier la torréfaction, justement. C'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Alors, Dans la première phase de la torréfaction, c'est surtout une phase de séchage, donc on va voir, un changement de couleur. Il y a une petite pause sur le grain vert encore qui va commencer à sécher, puis ensuite il y a le premier crack, donc là c'est vraiment le grain a commencé vraiment à brunir. Il y a des réactions chimiques comme la réaction de Maillard par exemple qui s'est passée, donc c'est l'action des sucres sur les protéines, enfin, bon, voilà. C'est ça qui va donner tout son arôme et toute sa complexité au café. Uh-huh. Ensuite il y a donc ce premier crack, donc qui arrive à une certaine température, donc c'est là où ce sera plus l'oreille qui sera nécessaire pour reconnaître justement quand démarre le premier crack. Et à partir de là, il faut être très réactif. Et c'est surtout avec le nez. Donc il y a une petite barrette qu'on peut sortir pour avoir un échantillon du café qui est dans la machine. Et là, on va sentir, on va regarder quelle fumée se dégage, quel aspect a le grain, s'il est marbré, s'il est lisse, s'il brille pas, voilà.
Ça va dépendre des grains de café que tu vas choisir.
Ça va dépendre des grains de café qu'on va choisir, ouais, parce que chaque variété, chaque terroir a vraiment une composition propre. Donc une densité différente selon l'élévation, ça a été cultivé, tout ça. Et surtout à quel degré on veut torréfier. Donc on va pas chercher un aspect pareil si on torréfie clair que si on torréfie un petit peu. Voilà, donc là, il y a plusieurs écoles, c'est des philosophies différentes, il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière.
Mmh. Et il y a plusieurs façons de torréfier. J'ai lu, par exemple, qu'il y avait la torréfaction flash, par exemple.
Ouais.
Alors ça, c'est quoi, c'est, ça,
donc,
ça va très
donc
vite.
On va parler juste pour la tailler un peu, on va dire. la torréfaction flash, c'est en fait les industriels qui sont toujours en quête d'optimiser de plus de profit, plus efficace, donc moins de temps. Donc c'est des grains qui vont être chauffés à très 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 haute température pendant 3-4 minutes, alors qu'un cycle de torréfaction traditionnelle, donc à des températures plus raisonnables, on va dire, parce que c'est quand même jusqu'à 200 degrés, mais c'est pas si chaud que ça. Ça dure plutôt entre 8 et allez, grand max 15 minutes.
Ah oui, d'accord. Ouais. Et j'ai lu aussi en Espagne que pendant la torréfaction, ils rajoutent du sucre. En Italie, ils rajoutent du beurre. Et toi, tu rajoutes quelque chose?
Non, moi je rajoute rien, parce que moi je suis plutôt partisan de la torréfaction claire qui laisse vraiment transparaître au maximum le terroir et la variété, mmh, et la préparation une fois que ça a été récolté. Et pour ça, en fait, si on torréfie soit trop foncé, soit avec des ajouts de sucre ou de beurre, ça va modifier ou ça va en tout cas apporter quelque chose en plus de ce qui est dans le grain. Mmh. Et moi, ce que j'aime faire, c'est pouvoir avoir dans la tasse tout le travail du producteur, donc quelle variété il a choisi, sur quel sol il le fait pousser, et les conditions climatiques et tout ça. Et moi, j'aime être le plus transparent possible par rapport à ça.
Alors justement, comment et où tu choisis tes grains de café? Comment ça se passe?
Alors, dans l'idéal, quand on est une boulerie de taille moyenne ou plutôt grosse, ou alors si on a les moyens, tout simplement, on voyage directement chez le producteur et on choisit avec le producteur, on marche à travers ses parcelles et puis on dit, ah oui, cette variété-là, qui pousse ici, qui pousse là, ça m'intéresse. Ensuite, il y a des cuppings, donc des rondes de dégustation, et puis là on affine un peu la sélection, on achète directement au producteur. Donc ça, évidemment, c'est le mieux, parce que ça évite les intermédiaires, et puis c'est beaucoup plus intéressant pour le producteur aussi.
Et on parle d'éthique aussi, en fait.
Voilà, c'est ça.
Alors vas-y.
Mais sinon, il y a des importateurs aussi qui sont très éthiques, qui travaillent un peu dans la même qui travaillent carrément dans cette démarche-là. Mm-hmm. Pour les torréfacteurs qui sont un petit peu plus petits, qui peuvent pas se permettre pour 2-3 sacs de café par mois de voyager, parce que c'est quand même en termes de logistique, c'est quand même beaucoup de voyager à l'étranger, d'aller rencontrer ces gens qui ont déjà peu de temps, donc voilà, c'est mieux d'acheter des grosses quantités, mais il y a des importateurs qui font ça très bien.
Alors l'arabica est une sorte de grain de café, c'est ça?
Oui, c'est une variété, ouais.
Il y en a combien à peu près?
Il y en a beaucoup. Alors qu'on consomme, il y en a deux. Il y a l'Arabica et Canephora, donc Robusta.
Et on en trouve en Afrique, au Brésil. De l'Arabica, par exemple, en fait, ça veut dire que, je sais pas, c'est comme au Chili, on va retrouver les mêmes types de cépages pour le vin, c'est un peu ça?
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah, en fait... Bon, l'Arabica est un petit peu plus exigeant en termes de conditions climatiques. Donc, des pays qui ont peut-être pas trop la possibilité de planter du café en haute altitude vont peut-être plutôt favoriser le Robusta, qui est déjà plus résistant par rapport aux maladies, puis qui est un petit peu moins exigeant au niveau climatique aussi, mais qui est aussi beaucoup moins complexe, beaucoup moins aromatique. Donc... Voilà, il n'y a pas de vérité absolue, il y a des préférences. Moi j'essaie de travailler essentiellement avec des cafés d'Arabica. Mais...
C'est le plus commun en fait.
Pas forcément. En France, on a bu beaucoup de Robusta aussi par rapport aux anciennes colonies. Au Cameroun, ils faisaient beaucoup de Robusta aussi. Donc, on a beaucoup de Robusta en France. Donc, notre palais s'est habitué un petit peu au goût du Robusta, mais il y a de tout. Donc, voilà.
On voit sur les paquets de café souvent sucré, léger, gourmand et fruité, notes de citron et de jasmin, j'ai même vu. Alors, c'est au moment de la torréfaction que ça se passe?
Non, c'est plutôt dans le grain, donc c'est plutôt la variété et le terroir, donc le sol sur lequel ça a poussé. Et nous, notre boulot, c'est justement de réussir à extraire cette note soit présente dans la tasse par une torréfaction. Bon, on va pas modérer, donc qui va permettre. Parce qu'en fait, si on torréfie trop foncé, il y aura beaucoup de notes de caramel qui vont beaucoup couvrir ces notes plus subtiles, par exemple comme du citron, du jasmin. Mais ça, c'est surtout le grain qui a des notes particulières.
Alors, on pourra venir déguster ton café à la pompe, c'est ça?
Oui.
Le but, c'est aussi de...
On n'est pas trop mis d'accord encore à partir de quand, mais... Ah. On vous fera savoir quand est-ce qu'on peut recommencer. Ouais.
Avec plaisir. Et le but, c'est aussi de le commercer dans d'autres lieux?
Pour l'instant, enfin, niveau torréfaction, là, pour l'instant, je travaille avec d'autres torréfacteurs parce que nous, on n'a pas de place à la pompe pour mettre un torréfacteur, malheureusement. Encore. Donc voilà, pour l'instant, je travaille avec des gens dont je sais qu'ils font un bon travail. Donc du coup, on essaie de varier un petit peu. On aura surtout le café de Playground Coffee, mes copains d'Hambourg. Mais pas que. Donc voilà, quand on recommencera, on est bienvenus pour parler café. Voilà. Sachant que pour utiliser de la pompe, il faut être adhérent, je le rappelle juste que... pour éviter les mauvaises surprises. Mais voilà, tout le monde peut adhérer à prix libre, à l'assaut, et venir parler café avec Mary.
Oui, parce qu'en fait, on comprend bien, ça demande de la place, mais ça demande aussi un investissement. Ça représente combien à peu près pour avoir une machine à torréfier?
Ouais, alors nous, on travaille avec des machines vraiment de pointe. Donc, c'est des machines qui sont très chères, évidemment. Déjà, rien que la machine sans l'installation, pas forcément les plus chères, mais ça tourne autour de 25 000 euros.
Ah oui, 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 effectivement. Ouais. faut en vendre pas mal du café après.
Faut vendre beaucoup de café. Moi, ce que j'aimerais faire dans l'absolu, c'est travailler avec d'autres torréfacteurs pour voir si on peut pas partager les machines pour éviter d'investir. Mais évidemment, le mieux du top, ce serait d'avoir un torréfacteur dans les locaux de la pompe et de torréfier à Florac. Ouais.
Et comme dirait l'autre, et surtout nos amis belges, l'union fait la force, ça c'est clair. Ouais. Est-ce que tu es prêt pour une petite interview détente?
Oui.
Allez, est-ce que tu as une chanson ou un artiste à conseiller?
Ouais, une chanson que j'adore, qui est un petit peu, qui est toujours dans l'air du temps, c'est Change is Gonna Come de Sam Cooke.
De?
Sam Cooke.
Ah oui, Sam Cooke, ouais. Ouais. Ouais, carrément.
Un classique, mais...
Non, un bon classique, même, c'est clair. Ouais. Un livre?
Un livre... un format très facile à lire et accessible vraiment à tous, c'est... Rules for a Knight. Alors, je crois qu'en français, ça s'appelle Les règles pour un chevalier. c'est un livre d'Ethan Hawke.
Ethan Hawke.
Le réalisateur et acteur américain.
Et enfin, un film ou même une série. Hein.
Alors là, je vais faire un peu le geek, mais je suis un énorme fan de Star Wars, donc tout l'univers Star Wars, j'arrive pas à m'en décoller, donc voilà.
Et il y a eu évidemment beaucoup de, entre guillemets, de débats sur le début, on va dire les 1, 2, 3, ou les 4, 5, 6, c'est comme on veut selon ce que les gens pensent. Et puis sur la suite qui a été rachetée par on sait qui ont des gros parcs d'attractions un peu partout dans le monde. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais. J'avoue que j'étais un petit peu plus sceptique sur les derniers épisodes, même si bon, il y a des pistes sympas qui ont pour ma part pas été exploitées
suffisamment
comme elles auraient pu. Donc je suis un petit peu sceptique sur la réalisation, mais bon, il y a du bon et du mauvais dans tout, voilà.
Merci
beaucoup. Il y a rien de tout noir ou tout blanc.
Merci beaucoup, Marc.
Ben merci à toi, Ben, et puis bonne journée à tous.
Ouais, et puis j'ai hâte de venir goûter ton café, je l'espère très très bientôt.
Le problème, c'est que la machine a un petit problème technique en ce moment.
Ah.
Je sais pas si on t'a parlé de la machine qu'on a, mais c'est un truc super super révolutionnaire, super moderne, et ouais, qui marche avec pas mal de logiciels, et du coup, il y a un capteur qui est mort pour la pression. Donc j'attends la pièce, mais sauf que comme c'est des pièces qui viennent des États-Unis, là, avec le Covid et tout, ça prend pas mal de temps. Donc c'est pour ça que je sais pas trop quand est-ce qu'on va être capable de redémarrer. Mais sinon, on fera des trucs un petit peu plus simples, quoi, du filtre à la main. Mais on vous fera savoir quand on est opérationnel. Mais enfin, passez, parce que moi j'adore parler café, donc voilà.
Eh ben,
passez nous voir.
Avec plaisir. À très très bientôt.
J'espère très bientôt. Ouais.
Et bonne continuation.
Merci. À bientôt.
Voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi. Merci à toutes et tous de nous suivre. Merci Corto.
Avec plaisir.
Je t'ai pas réveillé ce matin, c'est quand même incroyable. Prenez soin de vous. Et comme disaient des proches, le mois de mars ne passera pas l'hiver. Pas d'inquiétude. On se quitte avec Pigalle, le bar tabac de la rue des Martyrs. Bonne journée à toutes et tous. Ciao.
Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y a les ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure, ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, certains soirs tout à coup dans un coin on s'arrête de rire. Et quand
brusquement. Les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope, c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum. Une voix, on éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises, y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler, à boire. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs.
C'était la rediffusion de la matinale de lundi.